Chapitre 6. Hakone, île de Honshu, Japon. Cléo savoura le silence. Elle adorait sa classe. Ses 26 élèves, leurs rires et leurs demandes incessantes, leur énergie permanente, et elle, capitaine au milieu de leur tourbillon, seule adulte à recueillir leurs rêves d'enfant, à les protéger et les faire germer. Mais elle aimait encore davantage cette seconde où, d'une simple pression sur leur TPC, tous rentraient chez eux et où elle se retrouvait soudainement entourée de silence, 152 yeux pour scruter chacun de ses gestes, sans torrent de questions venant mitrailler ses pensées. Alors, après avoir pris le temps de goûter le moment, elle aussi, d'une simple pression sur son TPC, rentrait chez elle. Seule. Sa maison se trouvait sur les hauteurs d'Hakone. Une maison japonaise typique, toit pentu, mur de cyprès et cloison de papier, perdue au milieu d'un champ de cerisiers. Elle l'avait cherché pendant des mois, aérée en solitaire du nord au sud de l'île de Honshu. C'était son obsession depuis son adolescence, elle qui avait grandi avec sa mère dans une cabane au-dessus des falaises de Normandie. Habitée au Japon, dans une maison qui ressemblerait à celle des anciens dessins animés de Miyazaki, Mon voisin Totoro ou Le voyage de Chihiro. Elle s'y sentait désormais apaisée, sans éprouver le moindre besoin de se transporter ailleurs, en dehors de ses heures de classe, bien entendu, à marcher, lire et rêver. Seule. Son espace privé était ridiculement petit, moins de 50 mètres carrés, mais personne ne se téléportait jamais près de chez elle, si loin des rives du lac Ashi et des reflets du mont Fuji. Presque toute la population s'entassait au bord de la mer, et l'habitation la plus proche se trouvait à 3 kilomètres de la sienne. Parfois, elle adorait le silence. Parfois, Cléo aimait la musique, fort, très fort, à en faire s'envoler tous les oiseaux gourmands perchés sur les branches des cerisiers. Pas grave, ils reviendraient. Il faisait beau. Cléo ouvrit grand les portes, les fenêtres, les volets, qu'elle coinça avec les dossiers des deux chaises en osier posées devant sa maison, et lança la sono. Les accords de suprématie de Muse explosèrent à en faire fondre, au loin, très loin, la neige du mont Fuji. Le bonheur. Pour un peu, Cléo aurait eu envie de faire valser tous ses vêtements et de danser nu dans les champs roses de Shibazakura, ou au bord du minuscule bassin aux nymphéas qu'elle avait aménagé devant le chalet. Pourquoi pas, après tout? Elle était seule, elle était libre, rien ne l'en empêchait. Elle entra dans sa chambre, admira les sobres kakémonos de soie suspendus au mur de papier et fit le geste de passer son chemisier par-dessus sa tête sans même le déboutonner.
« Qu'est-ce que tu fabriques ?»
La voix avait surgi entre son lit et son armoire, avant de la poignarder dans le dos. Cléo bondit de peur. Sa chambre était vide la seconde d'avant. Son cœur se mit à battre à toute vitesse, de frayeur d'abord. Avant qu'il ne se calme, mais qu'à l'inverse, ses pensées sous son crâne s'accélèrent, poussées par la colère.
« Maman ? » ?»«
Bah oui, qui veux-tu que ce soit ? Tu donnes accès à ton espace privé à quelqu'un d'autre ? À un homme ? Tu me le dirais si...
Qu'est-ce que tu fais là ? » ?»«
Eh bien, rien d'extraordinaire, je rends visite à ma fille. »
Ma fille qui ne répond pas à mes messages.
Je travaillais, maman.
C'est bien pour cela que je te rends visite seulement maintenant.
Cléo prit le temps d'observer sa mère. Le gris strict de son tailleur tranchait avec la jupe et le chemisier coloré de Cléo. À 52 ans, Mylène Loisel était encore une belle femme, sur laquelle sans doute beaucoup d'hommes de son âge se retournaient, puis disparaissaient. Cléo n'avait jamais compris pourquoi sa mère n'avait jamais pu garder plus de 6 mois un homme, pas même son père. Trop possessive? Trop intrusive? À défaut de pouvoir materner un homme, elle se vengeait sur sa fille trop gentille, même si Cléo tentait de ne plus l'être.
« Maman, je te l'ai déjà dit 100 fois. Je ne veux plus que tu te téléportes chez moi sans me prévenir. J'ai 29 ans, j'ai passé l'âge de te voir apparaître dans ma salle de bain quand je prends ma douche, ou assise au bout de mon lit quand je me réveille. Si tu continues, je coupe l'accès de ton TPC à mon espace privé. »
Tu ferais pas ça à ta mère?
Si.
Mylène éclata de rire comme si elle ne prenait aucunement la menace au sérieux.
Commence déjà par me couper cette musique de dingue.
Énervée, Cléo obéit. De toutes les façons, le charme était rompu. Elle éteignit la musique et, pour la remplacer, alluma la télévision.
histoire de bien signifier à sa mère qu'elle ne comptait pas passer la soirée à discuter en tête-à-tête avec elle. L'écran s'afficha sur l'intégralité du mur face au lit.
« Tiens, tu t'intéresses aux actualités, Cléophée. »«
S'il te plaît, maman, pas Cléophée. Cléo suffit. Tu sais bien que je déteste mon prénom entier. Cléophée, franchement, maman, tu pouvais pas trouver moins... »
Sa mère s'approcha de la fenêtre et observa la pelouse recouverte de pétales de cerisier.
« Cléophée, la magicienne de la forêt. Je trouve au contraire que ça te va très bien. Tu es jolie, pleine de fantaisie. Il ne te manque plus qu'un gentil... »
Cléo augmenta d'un coup le son de la télévision. Le présentateur, visage catastrophé, parlait avec gravité d'un attentat, le plus meurtrier depuis des années. Une dizaine de morts. L'écran ne montrait aucune autre image que celle du journaliste qui expliquait que personne, à l'exception des forces de sécurité, n'avait été autorisé à se téléporter sur les lieux du drame. Le président de l'Organisation mondiale des déplacements, Galileo Nemrod, allait tenir une conférence de presse d'une minute à l'autre. La mère de Cléo s'efforça de parler plus fort que la télévision. Visiblement, elle se fichait de ses victimes à l'autre bout du monde.
« Ma petite fille, si je suis venue t'importuner, c'est que j'ai une bonne nouvelle. Une très bonne nouvelle. »
Elle ouvrit la penderie de la chambre avant de poursuivre.
« Ce soir, tu te fais belle.
Quoi ?
Tu es invité par Elias, ton fiancé.
Ce n'est pas mon fiancé.
Mais si, il t'adore. Je ne sais pas pourquoi, mais il t'adore. Fonce, ma fille. Elias est joli garçon, il possède une belle situation, il s'intéresse à toi. Alors ne fais pas comme ta mère. Ne laisse pas passer ta chance. Tu sais, les hommes sont des poissons qui ne prennent pas les rivières à l'envers. Il faut les attraper quand ils passent. Si ce n'est pas toi qui pêches le plus gros, une autre s'en chargera. Maman, Elias est charmant, intelligent, il a sûrement des tas d'autres qualités, mais il ne me plaît pas. »
Sa mère soupira. À la télévision, le président Nemrod apparut. La caméra le cadrait en plan suffisamment large pour qu'on identifie immédiatement le mémorial de la paix d'Hiroshima derrière lui. Le premier étage du dôme de Genbaku ainsi que le bas de la cravate du président était occulté par le bandeau qui, en boucle sur l'écran, afficher en temps réel les scores des dernières questions posées à l'Ecclésia.
« Tu es vraiment devenu trop raisonnable, Cléophée. Tu ne vois jamais personne en dehors de tes gamins et de tes cerisiers. Qu'est-ce qui t'est arrivé, ma chérie? T'étais une vraie chippie avant. Tu te souviens du soir où tu avais prêté ton TPC à un garçon de ton lycée pour qu'il te retrouve dans ta chambre? J'avais 15 ans et tu en as 29 aujourd'hui. À ce rythme-là, tu vas finir vieille fille. Mais je t'avais promis une bonne nouvelle. Alors parlons de ce bel Elias. Puisque tu ne réponds jamais à ses messages, ni à ses invitations, ce charmant garçon, qui a de la suite dans les idées, une autre de ses qualités, a décidé de s'adresser directement à ta maman. »
Elias était un ami d'enfance. Cléo et lui avaient grandi dans la même école, dans une valleuse de Normandie. Ses parents s'étaient liés d'amitié avec sa mère avant qu'il ne déménage à Montevideo. D'après ce que Cléo en savait, Elias était devenu architecte dans une grosse entreprise de bâtiments et travaux universels.
« D'accord, maman. Qu'est-ce qu'il veut ?»«
Se marier.
Quoi ?»«
Pas tout de suite, tu as le temps. Il veut se marier en 2118, le 31 mai. »
Cléo s'effondra sur le lit pendant que sa mère continuait d'observer, une à une, les tenues de sa fille accrochées dans sa penderie.
« Maman, soupira l'institutrice. « Qu'est-ce que tu as encore été inventée ? »